Chapitre 2. La maison des Campestres s'élevait au fond d'une cour, fermée sur la rue par un portail dont la peinture n'avait plus de teinte définie et qui s'en allait de vieillesse comme le reste, comme le mur croulant, comme la façade rousse zébrée de crevasses, comme l'intérieur, vaste, délabré, où la famille du chevalier Campestre cachait sa pauvreté. À force de travail, d'arrangements ingénieux, Donna Maria et sa belle-fille réussissaient à sauver quelque peu les apparences. Mais il leur en coûtait de dures fatigues, des soucis quotidiens qui avaient mûri les 20 ans de Ginevra et altéré cette beauté qu'elle tenait de sa mère, la charmante Florentine dont s'était épris le jeune chevalier Campestre et qu'il avait délaissée bientôt, non pour une autre femme, mais pour ses études historiques qui le passionnaient. Aujourd'hui encore, il oubliait pour elle la pénible situation pécuniaire, le présent et l'avenir de ses 3 enfants. Il était de ces doux maniaques, dont l'égoïsme féroce, qui sacrifie tout à une chimère. Car depuis 30 ans, il travaillait à un ouvrage qui devait, disait-il, lui assurer la célébrité. Mais son esprit minutieux se perdait en de si menus détails, en de si infimes recherches, que personne autour de lui ne voyait la fin de ce travail. Avec cela, il ne manquait pas d'une certaine valeur intellectuelle. En outre, il était modeste, défiant de lui-même. 20 fois, il revoyait, raturait, recopiait, aidé en cette besogne par Ginevra, qui se prêtait, en esprit de déférence filiale, à ce qu'elle savait être un labeur inutile, car son intelligence nette, réfléchie, avait compris que Don Alberto était de ceux qui n'atteignent jamais le but de leur rêve, par suite de cette incurable infirmité de l'esprit, l'indécision. À l'une des extrémités du logis, et ouvrant sur le jardin ses 3 fenêtres, se trouvait la grande pièce dont le chevalier avait fait son cabinet de travail. Au mur pendait une tapisserie usée, qui n'offrait plus au regard que de vagues formes d'arbres et d'êtres humains, et les teintes rousses ou jaunâtres des tissus vieillis. Des livres s'entassaient dans les solides bibliothèques de chêne, d'autres couvraient la table de travail, massive, placée devant la fenêtre du milieu, qu'un store de toile déteinte, patiemment raccommodée par Ginevra, défendait du soleil. Tchèque, la fille née du second mariage de Don Alberto, entra doucement dans cette pièce un après-midi de la fin d'août. Sa silhouette frêle glissa dans l'ombre tiède où s'agitaient des raies de lumière et s'arrêta près de Ginevra qui écrivait, assise devant la table encombrée. « Marinella, Ginevra !» La jeune fille leva la tête et la tourna un peu pour regarder la fillette qui penchait vers elle son visage menu, chétif, où rêvait des yeux couleur d'ardoise, trop pensif. « Ah, elle est là, je vais aller lui dire bonjour !» Mais la main maigre de Tchèque arrêta le mouvement commencé. « Non, n'y va pas, Ginevra, elle doit venir pour une affaire sérieuse, car on m'a fait comprendre que j'étais de trop. » Et puis, comme papa rentrait justement à cet instant-là, Donna Francesca a dit « Ah, Don Alberto, vous arrivez bien, j'ai besoin de vous aussi. » Alors, ils sont entrés tous les 3 dans le salon. Ginevra dit seulement « Ah !» Un léger tressaillement parcourait son visage, un peu d'émotion troubla pendant quelques secondes le calme mélancolique de ses yeux bleus, tranquilles et foncés comme l'eau d'un lac sous le ciel d'été. Tchèque, en caressant du bout des doigts les cheveux bruns aux souples crépelures qui retombaient en 2 bandeaux sur le front ambré de l'aîné, dit à mi-voix « C'est peut-être pour un mariage, Jean ?» Un mouvement d'épaule souleva le corsage de toile blanche qui habillait le buste amaigri de Ginevra. « Ce serait si invraisemblable, ou bien quelque mariage impossible. Ne te monte pas la tête, Tchèque. » « Je crois pourtant que ce doit être quelque chose comme cela. Marina dit qu'elle arriverait à te marier et à te bien marier. Elle parle toujours sérieusement et je pense qu'elle avait déjà une idée à ce moment-là. » Ginevra ne répliqua rien. Son visage, de nouveau, s'inclina vers la feuille à demi couverte de son écriture ferme et lisible. La plume, dirigée par une jolie main effilée, un peu brune, recommençait son office. Tchèque, se reculant, attira à elle un lourd fauteuil de chêne et s'assit sur l'accoudoir, ses jambes frêles pendantes, le buste ployé, les mains croisées sur sa jupe de toile bleue, déteinte par de trop nombreux lavages. Son regard sérieux et tendre considérait le délicat profil de Ginevra, les lèvres d'un rose pâli, entr'ouvertes, la paupière mate, au bord de laquelle palpitaient des cils bruns, soyeux, dont se voilaient si souvent les beaux yeux graves, devant les étrangers. Cheik a dit tout à coup, « Vois-tu, Jean, je pense que ce n'est pas pour rien que Donna Francesca t'a fait rencontrer deux fois avec son cousin, le marquis Orchel. » Ginevra ne parut pas entendre. Son visage restait calme, comme sa main qui continuait de tracer les caractères nets et soignés sur le papier épais. Et cependant, elle avait eu cette même pensée qui traversait l'esprit observateur et précocement réfléchi de Cheika. La comtesse Riesini, l'amie fidèle, devait avoir prémédité la réunion chez elle à deux reprises de la jeune fille noble et pauvre qu'elle cherchait à établir et du jeune veuve dont elle était parente. La visite d'aujourd'hui, l'entretien secret, se rapportait-il à ces rencontres? Un peu d'émotion agitait le cœur de Ginevra à cette idée. Non que le marquis Orchel eût fait sur elle une très profonde impression. Il lui avait paru très gentilhomme, de manières élégantes et courtoises, de physique agréable et d'intelligence fine, souple, fort cultivée. Elle s'était dit, après l'avoir vu pour la première fois, « Il est très bien ». Après la seconde entrevue, elle avait pensé « Ce doit être une nature réservée, un peu froide, mais il est vraiment bien. » Puis elle n'y avait plus songé qu'incidemment. Si elle souhaitait le mariage, pour avoir un foyer où elle pût répandre la tendresse, le dévouement de sa nature aimante, elle avait trop bien discipliné son âme dès l'adolescence pour lui permettre des échappées romanesques ou des rêveries sentimentales. Quand elle pensait à l'époux désiré, il lui apparaissait sous les traits d'un homme jeune, sérieux, très bon, qui serait son confident et la conseillerait, qu'elle respecterait, estimerait entre tous. Tous deux s'aimeraient d'une affection tranquille, profonde. Ginevra, en ses pensées, ne donnait pas à cette affection le nom d'amour. Son cœur n'avait jamais connu de battements plus vifs que ceux de chaque jour, et l'amour restait pour elle un mot dont le sens lui demeurait caché. La personnalité morale de cet époux futur et problématique lui importait seule. Du moins, dans les moments où l'idée du mariage lui venait à l'esprit, elle ne songeait qu'à elle. Jamais elle n'avait cherché à s'imaginer sa personne physique, jamais elle ne s'était dit « je voudrais qu'il fût ainsi ». Et dans les rares occasions où elle avait paru en quelques salons amis, aucun des hommes qu'elle y avait vus, jeunes ou d'âge moyen, ne lui avait donné à penser « j'aimerais que mon mari fût comme lui ». Si donc Ginevra s'émouvait un peu à l'idée que le jeune marquis Orchel pouvait avoir jeté son dévolu sur elle, c'était surtout parce que le mariage lui apparaissait comme un changement d'existence très grave, un peu angoissant, et qu'elle redoutait d'avoir à prendre une décision qui engagerait toute sa vie. Cheika se taisait maintenant. Elle balançait avec lenteur ses longues jambes en continuant de regarder sa sœur. Une mouche bourdonna dans la pièce pendant un instant et s'échappa vers le jardin brûlant de soleil où les roses s'effeuillaient sur la terre sèche. Un peu de brise entra en parfumant la pièce d'une senteur chaude de fleurs pâmées. Dans le silence, le parquet craqua derrière la porte. Celle-ci s'ouvrit. Une tête de femme, brune, encore jeune, se pencha, une voix brève appela « Ginevra, viens !» La jeune fille redressa la tête, regarda l'arrivante qui restait sur le seuil, debout, sortant de l'obscurité du couloir, sur laquelle se détachait encore son visage mat et dur, sa silhouette forte, sans élégance, dont une robe claire, flottante, accentuait l'apparence d'embonpoint. Le regard de Ginevra rencontra les yeux qu'elle avait toujours connus indifférents et sans douceur. Aujourd'hui, une lueur inaccoutumée s'y allumait. Donna Maria répéta « Viens, Donna Francesca veut te parler !» La jeune fille se leva. Cheik avait déjà sauté à terre et elle regardait sa mère avec cette attention profonde qui emplissait d'ombre ses yeux songeurs. Mais elle ne demanda rien. La seule vue de la physionomie de Donna Maria lui avait appris qu'il s'agissait d'une chose inespérée, certainement d'un beau mariage pour Ginevra. Et elle resta là, immobile, le coude au dossier du fauteuil, partagée entre le désir de voir sa sœur heureuse et la crainte d'être séparé d'elle bientôt. Dans le salon sombre et frais, où l'on avait réuni les meilleurs meubles du logis, la comtesse Riésine y monologuait quand Ginevra et sa belle-mère entrèrent. Car le chevalier aimait peu à parler et se contentait tant qu'il pouvait d'écouter avec une attention plus ou moins distraite. Aujourd'hui, cependant, il semblait intéressé. En voyant apparaître sa fille, il eut un petit rire qui écarta à peine les lèvres longues et molles et ses yeux clignotèrent sous les verres du lorgnon qui chevauchaient le nez bourbonien. « Allons, ma chère fille, arrive vite pour entendre l'heureuse nouvelle que nous apporte notre fidèle ami. » La vieille dame entoura de ses bras les épaules à la courbe élégante et attacha son regard sur les yeux bleus qui interrogeaient sans hâte. « Oui, ma chérie, je vous apporte quelque chose d'heureux. » Elle fit asseoir la jeune fille près d'elle sur le canapé et, sa main tenant celle de Ginevra, elle dit aussitôt « Ginevra, si vous voulez vous marier, voici l'occasion. Mon jeune cousin, le marquis Horschel, vous a vu chez moi et d'après tout ce que je lui ai dit de vous, il espère que vous pourrez être pour lui l'épouse sérieuse et bonne qu'il souhaite. » Je viens donc aujourd'hui en ambassadrice, mon enfant. Le marquis Paolo Horschel me charge de demander votre main pour son fils. » Une légère teinte pourprée s'étendit sur les joues ambrées de Ginevra. Cécile Bathyr, sa main frémit un peu dans celle de la comtesse. Elle regarda son père, sa belle-mère. Ses yeux disaient « Qu'en pensez-vous ? » Le chevalier plissa les lèvres dans une sorte de sourire. Sa voix douce et lente prononça « C'est un très beau mariage, Ginevra. Inespéré, tout à fait inespéré. » Donna Maria inclina sa tête brune en un mouvement approbateur et elle ajouta « Tout est réuni chez ce prétendant. Fortune, vieille et noble famille, dons physiques, belles qualités intellectuelles et morales. Tu es une heureuse créature, Ginevra. » Un peu d'amertume passa dans la voix sèche à ces derniers mots. La comtesse dit gravement « Mais oui, ce serait un très bon mariage. Il est une chose, cependant, que je ne dois pas vous sceller, Ginevra, et dont Silvio lui-même tient à ce que vous le sachiez. Il a aimé passionnément sa première femme, qui était fort jolie et séduisante. Il l'aime et la regrette toujours. S'il se remarie, c'est pour céder au désir de son père, soucieux de ne pas le voir demeurer tout seul après lui. Il ne faudrait pas donc lui demander, ma chère enfant, un attachement romanesque qu'il serait incapable de vous donner. Certainement il vous aimera, car il est affectueux et bon. Mais, entre vous et lui, subsistera peut-être longtemps le souvenir de cette blonde Hélène qu'il épousa en France, un peu contre le gré de son père, car elle était de souche roturière, fille d'industriel très riche et fort honorable d'ailleurs. Ses restes mortels reposent dans le parc de la Villa Horschel, sous une chapelle où Silvio se rend chaque jour. La persistance de ce souvenir, après 3 ans de veuvage, est tout à son honneur, il faut en convenir. » Ginevra murmura « Oh oui, c'est très beau !» Mais il y aura là un petit ennui pour la seconde femme. Je ne doute guère cependant que vous n'arriviez pas assez vite à prendre dans son cœur la place qui vous sera due. En tout cas, je ne crains pas de vous assurer qu'en fait d'égards, d'attention, de fidélité conjugale, vous n'aurez rien à désirer. Quant à Don Paolo, c'est le plus excellent homme du monde et il vous traitera en fille très chère. » Donna Maria se leva pour aller entr'ouvrir un volet, car l'obscurité se faisait subitement dans le salon. Un nuage passait devant le soleil. Le léger reflet de jour qui traversait tout à coup la pénombre de la pièce enveloppa le visage pensif et grave de Ginevra et celui de la comtesse, bienveillant, attendri, si fin dans le cadre des cheveux blancs et de la capote à l'ancienne mode. Donna Maria revint s'asseoir en faisant observer « Nous aurons de l'orage ce soir. » Et tout aussitôt elle ajouta « Eh bien, Gina, que dis-tu de cela ?» Ginevra regarda sa belle-mère, puis Donna Francesca. L'hésitation, l'anxiété, une émotion vive assombrissaient le bleu profond de ses yeux. « Je ne sais. Si vous pensez que je doive accepter... Donna Francesca, vous le connaissez bien, vous croyez qu'il sera un bon mari ? Très bon, mon enfant, il n'y a que cette petite ombre. Évidemment, c'est une situation délicate, un peu pénible, de remplacer une femme aussi regrettée. Mais vous avez de si charmantes qualités que Don Silvio s'attachera inévitablement, très vite, à vous. » Donna Maria dit, en chassant d'un geste impatient une mouche qui frôlait sa joue, « Surtout si tu lui donnes le fils qu'il désire, car ce doit être, naturellement, son plus vif souhait et le motif principal de cette détermination. Son père et lui veulent voir continuer leur vieille race. C'est très naturel. » Le chevalier hocha la tête en répétant « Très naturel. » Donna Maria reprit « Je l'ai vu chez vous, chère comtesse. Il est très bien, très grand seigneur. C'est un homme charmant. Tu n'as pas à hésiter davantage, il me semble, Ginevra. » « Je voudrais réfléchir jusqu'à demain, ma mère. » « Réfléchir, est-ce si nécessaire, puisque Donna Francesca te donne toutes les meilleures assurances ?» La comtesse intervint. « Mais si, elle a raison. Il faut toujours réfléchir et prier quand il se présente une aussi grave perspective de changement de vie. Faites-moi donner la réponse demain. Si elle est favorable, comme je l'espère, je préviendrai aussitôt mes cousins. » Silvio viendra faire sa première visite et vous emmènera tous trois chez son père pour lui faire connaître sa future bru. Allons, au revoir, mes chers amis. » Elle se leva, embrassa Ginevra, dont la joue était chaude et palpitante. Le chevalier, sa femme et la jeune fille l'accompagnèrent jusqu'à la porte de la cour. Debout sur le seuil, il la regardait remonter dans sa vieille calèche, attelée de paisibles chevaux gris et conduite par un cocher vénérable. Quand l'équipage s'ébranla, ils rentrèrent. Les pieds rhumatisants du chevalier trébuchaient sur les pavés disjoints de la cour. Sa femme fit observer « Cela devient un casse-cou. Mais qu'y faire? Il faut laisser la ruine agir, à moins qu'un événement nous apporte l'aide nécessaire. » Ginevra comprit l'insinuation. L'événement, ce serait son mariage avec le marquis Orcella. Elle en voulut un peu à sa belle-mère de lui montrer ainsi qu'elle devait accepter sous peine de nuire à sa famille. N'avait-elle pas déjà donné assez de preuves de dévouement au sien pour qu'on lui épargnât cet avertissement voilé qui semblait vouloir par avance peser sur sa décision? Dans le vestibule sombre, le chevalier s'arrêta et regarda sa fille en clignant ses paupières molles. « Eh bien, chère petite, voilà enfin un peu de chance qui nous arrive. » Mais je perdrai mon excellent secrétaire de ce fait. » Sa main se leva, caressa la joue de Ginevra. Un regret se mêlait à la satisfaction très vive sur son visage coloré d'homme sanguin. Donna Maria riposta. « Mais vous y gagnerez un gendre excellent, tel que vous n'auriez pu en rêver. C'est infiniment préférable. » Ginevra se glissa vers une petite porte donnant sur le jardin. Elle avait besoin d'être seule un moment. À l'ombre d'un figuier, elle s'assit sur un vieux banc lépreux, dont les planches disjointes ployaient sous le poids du corps, si légère que fût Ginevra. Le soleil s'abaissait et traînait en longs rayons pâlis sur le jardin silencieux, mal entretenu, où des coins incultes se cachaient derrière les bosquets taillés par la main inexperte de Ricardo, le vieux serviteur à tout faire. Sur son socle verdi, un vase de marbre se dressait, noir, fendu, mélancolique vision de ruines. Des petites allées envahies par l'herbe s'enfuyaient dans le mystère d'une ombre verte, entre les taillis laissés à eux-mêmes et qui s'émancipaient avec ardeur. Un souffle d'air passa, quelques feuilles tombèrent, mortes précoces, annonciatrices du déclin de l'année. Ginevra songeait, les mains jointes sur ses genoux. Elle revoyait la physionomie fine, aristocratique, du jeune marquis Orcella, ses yeux sérieux, intelligents, si beaux lorsqu'un peu d'animation y passait. Donna Francesca, à qui l'on pouvait se fier, répondait des qualités morales de son cousin. Ainsi, rien ne s'opposait à ce que Ginevra acceptât ce mariage. Don Silvio lui semblait plutôt sympathique et sa fidélité au souvenir de sa première femme apparaissait à la jeune fille comme tout à l'honneur de son prétendant. Peu d'hommes avaient cette fidélité-là. Ginevra ne serait pas jalouse de la blonde Hélène, elle ne chercherait pas à la faire oublier. Une morte n'est pas une rivale dangereuse. Elle n'empêcherait pas que Don Silvio accordât peu à peu son affection à la jeune femme qui s'efforcerait d'être pour lui une compagne intelligente, dévouée, aimante, la consolatrice discrète de ces deux hommes, le père et le fils, profondément atteints dans leur plus chère tendresse. Un bruit de pas traînant annonça l'approche du vieux Ricardo. Il passa, les épaules courbées, serrant contre sa poitrine des légumes qu'il venait d'enlever de terre. Un rayon de soleil caressait longuement son front dégarni, s'attardait complaisamment sur les vêtements terreux. Ginevra pensa « Comme il est vieux, il ne devrait plus travailler, c'est par dévouement pour nous. » Elle ferma un instant les yeux pour mieux réfléchir. Quand ses paupières se relevèrent, la clarté encore vive du jour prêt à décroître éblouit son regard pendant quelques secondes. Elle dit à demi-voix « Je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher d'accepter ce mariage. C'est beaucoup mieux que je n'aurais jamais pu désirer. Et ici, ils seront tous contents. »